bienvenue à tous. J'aimerais parler sur une foi nourrie par la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi. La foi qui joue un rôle primordial dans notre vie chrétienne. Alors, il ne faut pas limiter la foi au moment où on a commencé à croire. Oui, c'est bien sûr la foi, on croit que Dieu existe, c'est aussi la foi. Mais la foi doit nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne. Et bien sûr, nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi, nous devons l'exercer alors que nous avançons dans les années de vie chrétienne. Et je dirais que la foi, elle doit grandir en nous, elle doit se développer. Au début, nous commençons à croire, c'est comme une petite graine. Mais cette petite plante, elle doit germer et ça doit devenir un arbre, un petit peu comme un gland va devenir un chêne. Eh bien, la foi qui va être semée va grandir et devenir plus solide. On compare souvent la foi à un muscle. Un muscle, si vous ne l'utilisez pas, il va s'atrophier. Mais si vous utilisez vos muscles, ils vont se développer. Eh bien, la foi, c'est la même chose. Si vous n'utilisez pas la foi, elle va s'atrophier en vous, de sorte que votre foi sera extrêmement faible, voire vous tomberez dans l'incrédulité. Mais si vous exercez la foi, elle va se développer, elle va grandir, et cela va vous permettre de relever davantage de défis. Alors, comment développer la foi? Eh bien, ce verset nous indique que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, cette parole va être la nourriture de notre foi. Et plus vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, plus votre foi va être édifiée, va être nourrie, un petit peu comme, par exemple, une plante a besoin d'eau pour s'épanouir. Eh bien, nous, chrétiens, nous avons besoin de la parole de Dieu pour que notre foi s'épanouisse. Alors, si vous voulez une foi solide, il vous faut alimenter votre foi de la bonne parole de Dieu. C'est une discipline, c'est un travail, et c'est un principe vrai pour la nourriture du corps. Si vous voulez être en bonne santé, bien vous devez avoir une nourriture équilibrée, avoir des aliments variés, sains et solides. Et bien pour nous, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui va être notre alimentation pour une foi saine et solide. La foi vient de ce qu'on entend, dit le texte, la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous passez beaucoup de temps à écouter des messages bibliques ou à écouter des émissions sur Internet, c'est très bien, mais ce n'est pas la nourriture de la foi. Réellement, la nourriture de la foi, la première, je dirais, celle qui est fondamentale, c'est la parole de Dieu. Après, on a des compléments alimentaires qui sont très bien, mais si vous dites « Ah, j'ai pas le temps de lire la Bible, je vais juste écouter un message ou je vais juste regarder une émission chrétienne », ça ne remplacera pas la nourriture de la foi. Cette nourriture-là, elle est incontournable. Les autres sont complémentaires. Il vaut mieux que celle-ci soit respectée, si vous n'avez pas le temps, mais plutôt que les autres qui viendront en complément de cette nourriture-là qui est fondamentale. Donc, si vous ne prenez pas ce temps de lire la parole de Dieu tous les jours, votre foi ne sera pas nourrie. Elle sera très superficielle, très fragile, parce que vous allez la nourrir d'autres éléments qui ne sont pas la parole de Dieu. Et Pierre nous parle de la parole de Dieu, voyez, dans 1 Pierre 2, 2, il dit que cette parole, elle demeure éternellement, donc déjà, c'est quelque chose qui est durable, et il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » La parole de Dieu, c'est un lait spirituel et pur, mais c'est un lait de croissance. C'est ce qui va permettre votre développement spirituel et que votre foi s'appuie sur des réalités spirituelles et non pas sur des impressions où je pense que, où on m'a dit que, j'ai entendu que. Non, notre foi, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi souvent la foi est très affaiblie parce qu'elle n'est pas nourrie de la parole de Dieu. Alors je vais vous montrer quelques exemples dans la parole. Le premier, c'est dans Exode 14 et au verset 10. Il s'agit de Moïse. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Je rappelle le contexte, Moïse, c'est l'homme de Dieu qui a été appelé à quitter son lieu où il était avec Jéthro, et à aller délivrer le peuple qui était esclave en Égypte. Et tout s'est bien passé. Après les 10 plaies d'Égypte, le peuple a pu sortir à main levée. Donc les Égyptiens leur donnaient même de l'or et de l'argent pour qu'ils partent, parce qu'avec toutes ces plaies qui avaient contaminé le pays, ils étaient contents de voir le peuple d'Israël partir. Donc la Bible dit même que les Israélites ont dépouillé les Égyptiens. Alors là, tout se passe bien, et le peuple, il est vraiment dans une grande louange, si bien qu'ils avancent pour aller en Canaan. Et là, il se passe un événement tout à fait étrange. C'est que pour aller à Canaan, finalement, d'Égypte à Canaan, c'est assez rapide. Le chemin est assez court. Mais Dieu leur fait faire un détour. Dieu leur fait faire un détour. Et quelquefois, Dieu nous fait faire des détours. Et on se demande pourquoi. Il nous fait faire des détours. Par exemple, si vous voulez aller à Paris, vous pouvez prendre l'autoroute direct en ligne droite. Vous arrivez à Paris, de Toulouse à Paris, c'est assez simple. Mais vous pouvez aussi passer par Aix-en-Provence, par Nice, par Strasbourg, par Lille, et puis redescendre vers Paris. C'est tout. Vous arrivez aussi à Paris, mais vous faites un grand détour. Quelquefois, le Seigneur ne nous fait pas passer par la ligne la plus droite, il nous fait prendre des chemins qu'on n'aurait pas pensé. Bien, voilà le peuple d'Israël qui doit commencer à prendre un détour, et en plus par le chemin du désert. Bon, ce n'était pas le chemin le plus avantageux, on va dire, déjà, ça les fait réfléchir. Et en plus, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Donc finalement, c'est un chemin, non seulement Dieu leur fait faire un détour, mais ils se retrouvent dans une impasse, parce qu'arrivé à la mer Rouge, on ne peut plus avancer. Et on peut se poser la question, mais quel est le sens de tout ça? Ils arrivent donc dans une voie sans issue, et ils sont bloqués. Alors, le temps passe, et en fait, plus le temps passe, et plus la situation se dégrade, parce qu'entre-temps, Pharaon, il réfléchit, il dit, mais j'ai laissé partir, moi, tous mes ouvriers, il n'y a plus personne pour construire les pyramides, je vais les récupérer, et on va les ramener en Égypte. Donc là, la situation, elle commence à devenir vraiment mauvaise. Elle devient mauvaise. Ils sont partis tout contents, tout joyeux. Là, maintenant, les Égyptiens reviennent, et heureusement que Dieu a mis une nuée devant entre le peuple et les Égyptiens, parce que les Égyptiens les auraient attrapés. Mais Dieu a pourvu, il a mis une nuée de séparation, et la nuit c'était une colonne de feu, ce qui faisait que les Égyptiens étaient là, ils voulaient les attraper, mais ils ne pouvaient pas les attraper. Et là, on arrive à ce texte, donc Exode 14, on est dans cette situation, qui illustre en fait deux types de réactions possibles dans l'épreuve. Nous avons la réaction du peuple et la réaction de Moïse. Et on va voir que Moïse a une foi nourrie de la parole de Dieu, mais que le peuple doute de la parole de Dieu. Alors, la première chose que je vois dans ce texte, c'est d'abord une vision de foi au verset 13. Voyez ce petit mot au verset 13 qui dit « regardez ». Ne craignez rien, restez en place, mais regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. C'est Moïse qui parle au peuple et il dit au peuple « mais regardez », ça veut dire développer cette vision de foi. Romains chapitre 4, verset 17, on voit que Moïse est dans le même esprit ici qu'Abraham. Il voit déjà les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Moïse commence à voir les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ça, c'est développer une vision de foi. Et ça, c'est notre entraînement. Et c'est pourquoi il dit au peuple, mais regardez. Pourquoi il dit regardez? Regardez la délivrance. Parce que le peuple, il voit bien les Égyptiens. Il voit bien les chars et les chevaux de l'Égypte, c'est-à-dire la nation la plus puissante du monde. Mais il n'a pas développé sa vision de la puissance de Dieu. Et donc, leur vision est charnelle, terrestre. Ils sont découragés. Alors, Moïse leur dit, développer une autre vision. Regardez la puissance de Dieu. Regardez ce que Dieu va faire. Et Moïse était le seul face à un peuple incrédule. Et quelquefois, vous serez seul à avoir une vision de foi. Mais il vous faut vous nourrir de la parole de Dieu pour développer cette vision-là. Parce que la parole nous montre que Dieu peut faire beaucoup de choses avec une seule personne qui a la foi, plus qu'avec des centaines qui n'ont pas la foi. Donc, nourrissez-vous de la parole de Dieu pour avoir cette vision de foi. Le deuxième élément que je vois ici, c'est ensuite les paroles de foi qui vont venir dans la bouche de Moïse. Il donne des paroles d'espérance dans un contexte de désespoir. Le peuple, lui, se voit déjà mort. Ils disent à Moïse deux fois, ils disent « Tu nous as emmenés dans le désert, nous allons mourir dans le désert ». Ils regrettent l'Égypte, pourtant ils avaient été esclaves. Ils commencent à douter. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas nourri leur cœur de la parole de Dieu. Ils marchent par la vue, ils n'ont pas développé de vision spirituelle. Alors si vous n'avez pas cette vision spirituelle, bien vos paroles de doute vont être plus nombreuses que les paroles de foi, c'est logique. Parce que comme on ne voit pas les choses de Dieu, bien on va parler selon les choses que l'on voit. Et les paroles que nous disons reflètent notre cœur. Ici, le peuple démontre qu'il n'a pas de communion avec Dieu, qu'il n'a pas mis sa foi dans le Seigneur Tout-Puissant. Et Moïse, lui, il réagit à l'inverse. Regardez ses paroles au verset 14, par exemple. Il dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ça, ce sont des paroles de foi. Ce sont des paroles d'une personne qui est remplie du Seigneur, qui aime le Seigneur, et qui ne laisse pas le doute ambiant contaminer sa foi. Sa foi communique l'espérance autour de lui, tandis que le doute communique le désespoir. Donc la foi, c'est ce que nous devons partager autour de nous. La foi, c'est comme un antivirus. La parole de Dieu, ça va être l'antivirus pour notre foi. Que le doute ne touche pas notre foi. Moïse demande au peuple de garder le silence. Pourquoi il demande au peuple de garder le silence ? Parce qu'il commençait à parler de défaite, à parler mal. Il faut retourner en Égypte, on va mourir. Et nous savons que nos paroles ont un impact très puissant sur nous-mêmes. C'est-à-dire que, à force de parler, de gémir, en fait, ils attiraient sur eux toutes les paroles qu'ils étaient en train de prononcer. Et les paroles que nous prononçons attirent sur nous soit des bénédictions, soit des malédictions. Et là, en quelque sorte, en disant « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Nous allons mourir au désert. Il vaut mieux retourner en Égypte. Nous étions mieux là-bas. » Ils sont en train d'attirer sur eux des mauvaises choses. Donc Moïse leur dit « Mais non, gardez le silence, ça veut dire arrêtez de parler à tort et à travers. » Et puis, le troisième élément que je vois, c'est l'attitude de foi de Moïse, parce que le peuple qui est dans le doute va produire un découragement général. Et souvent, quand les gens sont dans l'incrédulité, dans le doute, ça décourage tout le monde, parce que tout le monde a une influence. Soit vous avez la foi, vous avez une influence encourageante, soit vous doutez, vous avez une influence décourageante. Donc le doute, c'est vraiment le chemin de l'échec. Il y a un officier dans le livre des rois, c'est du temps du prophète Élisée. Il y avait la famine dans le pays et Élisée reçoit une parole de Dieu et il dit « Demain, il y aura l'abondance ». Et cet officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, ne croyait pas les paroles du prophète. Et il lui dit « Mais quand bien même Dieu ferait des fenêtres dans le ciel, une telle chose arriverait-elle ? » Il n'y croit pas, il manifeste sans doute son incrédulité. Ces paroles auront une conséquence sur sa vie. À cause de ces paroles incrédules, le prophète le reprend et lui dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas ». Et cet homme, le lendemain, lorsque les choses sont arrivées, le miracle est apparu, l'abondance est revenue, eh bien, le peuple est sorti de la ville de Samarie pour aller chercher la nourriture à l'extérieur. Et cet officier qui gardait la porte s'est retrouvé écrasé contre la porte. Et le texte dit que c'est selon ses paroles même qu'il a été jugé. Donc les paroles que nous prononçons à tort et à travers auront des conséquences. Et c'est pourquoi si nous avons des paroles de moquerie, d'incrédulité, de jugement, bien nous devons les confesser, demander pardon à Dieu, parce qu'elles auront des conséquences si nous ne nous repentons pas, si nous ne demandons pas pardon. Et dans l'Église, au contraire, nous devons nous efforcer d'avoir des paroles encourageantes. Romains chapitre 1, versets 11 à 12. C'est Paul qui dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui est commune à vous et à nous. Afin que nous soyons encouragés. Alors c'est l'occasion d'encourager quelqu'un aujourd'hui, de lui témoigner d'une espérance, de lui partager notre foi, afin de nous exhorter les uns les autres, de nous édifier les uns les autres. Voilà comment nous devons venir dans la présence de Dieu avec cet état d'esprit, avec cette attente, avec cette confiance que Dieu est là. Un peu comme Moïse. Moïse qui est dans la foi, au verset 13 par exemple, il dit « Ne craignez point, restez en place ». Ce sont des paroles d'un homme qui a une attitude de foi. Alors comment est-ce que Moïse fait pour avoir la foi alors que tout va mal ? Bien tout simplement que sa foi, il la nourrit de la parole de Dieu. Jean 15, 7, c'est ce que Jésus nous demande. Jésus nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et c'est là où il faut laisser la parole de Dieu remplir notre cœur. Ensuite, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La foi est là, l'exaucement, les bénédictions, mais avant, laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur, c'est-à-dire nourrissez-vous de la parole de Dieu pour que cette foi soit alimentée de ces paroles. Ici, c'est la parole de Christ. Eh bien, quand votre foi est bien nourrie de cette parole-là, alors, eh bien, on peut s'attendre à demander, à voir la main de Dieu, à être béni. Et lorsque vous êtes vraiment nourri de la parole de Dieu, alors vous allez rester confiant quand la situation va tourner mal. Parce que vous ne savez pas comment Dieu va le faire, ni quand il va le faire, mais comme votre foi est nourrie de la parole de Dieu, vous savez qu'il va le faire en son temps et vous restez confiant. C'est un petit peu comme à la maison, quand on a un thermostat, vous le réglez sur 20 degrés, même si la température chute à l'extérieur, vous savez que le chauffage va s'enclencher, que la température à l'intérieur va remonter, parce que le thermostat va indiquer que maintenant il faut que les choses soient réglées. Et donc c'est pareil, quand votre thermostat de la foi il est bien réglé, eh bien vous n'avez rien à craindre. Peut-être la température va baisser, il va y avoir des épreuves, des difficultés, mais vous restez sur votre foi bien nourrie, bien établie, et Dieu va faire les choses en son temps. Ça, c'est un premier exemple. Je vous donne un deuxième exemple dans 1 Samuel 17. Toujours la nourriture de la foi, la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 17 et le verset 23. 1 Samuel, chapitre 17, verset 23. Il s'agit de David. Tandis qu'il parlait avec eux, donc c'est David qui parlait avec les soldats sur le camp. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança contre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, et il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Alors nous voyons ici chez David une vision de foi dès le départ par rapport à la situation. Je rappelle le contexte, bien sûr, les Philistins, c'est l'armée ennemie du peuple de Dieu. Ils ont envoyé leur géant qui s'appelle Goliath, qui fait presque 3 mètres de haut, pour défier l'armée d'Israël. Et il leur a dit ceci, « Envoyez-moi un soldat en combat singulier, et celui qui gagnera le combat, eh bien, l'armée remportera la victoire sur l'armée adverse. » Et face à ce défi, personne dans le peuple d'Israël n'ose aller confronter Goliath. Alors, on voit deux attitudes ici. L'attitude du peuple qui voit Goliath comme un géant invincible. Il est trop puissant, il est trop fort, il est trop bien armé. Personne dans le camp ne peut lui résister. Et donc, il s'enfuit, il confesse la défaite. Et puis, David qui arrive avec sa foi, on va dire enfantine, simple. La foi en Dieu, que Dieu peut tout faire, il arrive devant ce même géant Mais il dit, mais qui est ce géant pour insulter l'armée d'Israël? Il a une autre attitude, une attitude qui est déjà nourrie de la foi. Goliath, c'est un homme de guerre, un géant bien armé, habitué au combat. De l'autre côté, David est un jeune berger. Bon, ça paraît pas très équitable à vue humaine. Et son frère Eliab le reprend et lui dit, mais toi, tu es orgueilleux, pour qui tu te prends? Tu viens sur le camp, tu parles comme ça, retourne à tes brebis. Et donc, s'il écoutait cette voix-là, il serait découragé. Mais il choisit de ne pas entrer dans la polémique et il laisse son frère et il va plus loin. Et ça, c'est une bonne attitude parce que si vous vous épuisez dans les polémiques, si vous vous épuisez dans les contestations, vous allez perdre votre énergie et vous n'aurez pas la force d'aller affronter les défis qui vous attendent. Donc, bonne attitude chez David. Son frère ne croit pas en lui, eh bien, il le laisse de côté, il va plus loin, et finalement, ben, Dieu va conduire David devant le roi. Alors, une vision de foi vous permettra d'entrevoir quelque chose qui est possible alors que la situation semble impossible. Et ça, c'est David. Tout le monde vous dira, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais vous vous dites, c'est possible parce que vous percevez par la foi, parce que votre foi est nourrie de la parole de Dieu, et vous allez dire, mais oui, c'est possible, parce que notre Dieu est tout-puissant. Et parce que votre foi est nourrie, vous allez avoir un autre discours. Et c'est là où on voit maintenant les paroles de foi, dans le verset 31, toujours 1 Samuel 17, c'est David qui est devant le roi Saül. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Alors, les paroles de foi, quand le peuple est résigné, le peuple est découragé, le roi aussi, il ne voit pas d'avenir, il voit l'esclavage, eh bien ce jeune homme, David, lui, il se présente devant le roi avec des paroles de foi. Et on voit que Dieu utilise des simples instruments comme David, mais qui sont remplis de foi, alors que Saül était quand même un homme de prestance. Il dépassait le peuple d'une tête. Il était grand, il était fort. Il aurait pu faire quelque chose. Mais il n'avait pas nourri son cœur de la foi. Il ne nourrissait pas son cœur de la parole. Sa foi était faible. Et seul David va ramener le courage dans le peuple. Et il va combattre le géant. Donc n'attendez pas d'être beaucoup, une seule personne, mais qui a une foi nourrie de la parole de Dieu, eh bien peut donner des paroles de foi pour sortir d'une situation sans issue. Alors devant les paroles de foi de David, voyez comment réagit Saül. On a vraiment deux attitudes possibles. David vient avec sa foi simple, enfantine, il dit qu'il ira se battre parce que Dieu est avec lui, il fait confiance à Dieu. Et au verset 33, Saül répond tout de suite avec des paroles de doute. Il dit à David, non, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Et là, on est dans une autre parole d'incrédulité. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu n'es qu'un enfant, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Alors, c'est ça le problème, quand vous donnez des paroles de foi, votre cœur est nourri de la parole de Dieu, vous avancez, eh bien, vous ne serez pas toujours encouragé. D'autres vous donneront des paroles de doute, des paroles d'incrédulité. Et surtout, ne laissez pas les paroles de Saül rentrer dans votre cœur. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu n'es qu'un enfant, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Ne laissez pas ces paroles-là venir dans votre cœur, parce que ça pourrait entamer votre foi. Si vous vous nourrissez des paroles de Saül à ce moment-là, eh bien votre foi va être affaiblie. Et David protège son cœur. Alors certains viendront vers vous avec des arguments, ces passages, parce que ce que dit David, c'est vrai finalement. Il lui dit, ben lui c'est un homme de guerre, toi tu n'es qu'un enfant. Alors ça paraît sage, mais en fait c'est une sagesse charnelle. Mais si votre foi est nourrie de la parole de Dieu, vous allez comprendre la différence entre la sagesse spirituelle et la sagesse charnelle. C'est deux sagesses différentes. Saül est dans la sagesse charnelle, mais son cœur est nourri d'incrédulité. David est dans la sagesse spirituelle, son cœur est nourri de foi. Troisième élément dans ce texte, c'est maintenant l'attitude au verset 40. L'attitude de David, on voit que c'est une attitude de foi. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond, avec une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Amen. Voilà, David est dans l'attitude face à ces paroles de défi. David d'abord se sépare. Vous avez remarqué que suite à son entretien avec le roi, il ne s'est pas laissé contaminer par l'esprit du roi, par sa pensée. À un moment donné, même le roi a voulu mettre sur son dos son armure, une armure très lourde. David a fait un mouvement et il voyait bien que ce n'était pas l'armure qu'il devait prendre. Et vous ne pourrez pas aller au combat avec l'armure d'un autre. Vous devez prier vous-même. Vous devez chercher Dieu vous-même. Vous ne pourrez pas faire... Si quelqu'un prie pour vous, c'est très bien, mais vous devez prier vous-même, parce que votre armure, c'est à vous de la développer dans la prière. Pourquoi il a mis de côté cette armure-là? Ce n'est pas la bonne. Et il a cherché à développer son armure à lui. Comment? Il est allé dans le lieu secret, c'est-à-dire au torrent, un lieu à part, dans la communion avec Dieu, dans la prière. Et là, il s'est fortifié dans l'armure spirituelle. C'est dans la prière. Alors quand Goliath voit David, il le méprise, il le maudit même par ses dieux. Alors vous n'avez rien à craindre. Des gens vont vous maudire, des gens vont vous faire du mal, ils vont mettre sur vous des mauvaises paroles. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes gardé par la protection de Dieu. Si vous avez passé ce temps dans le lieu secret, si vous avez la communion avec Dieu, vous avez une protection spirituelle. Alors, quand vous entendrez ces paroles, ne soyez pas découragés, mais entendez dans votre cœur les paroles de Dieu, les paroles réconfortantes. Alors, vous allez au combat, et David a une attitude de foi face à Goliath, c'est-à-dire tout de suite, il élève le nom de l'Éternel. Et c'est ainsi que nous allons combattre, frères et sœurs. Si notre foi est nourrie de la parole de Dieu, ce n'est pas avec nos forces que nous allons, mais c'est au nom de l'Éternel. Et c'est lui qui ouvrira le chemin et qui nous donnera la victoire. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre nos mains. Il ne dit pas, ça sera demain ou dans 10 jours, c'est aujourd'hui. Vous voyez, c'est le temps de Dieu. Et puis il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas David, c'est l'Éternel. Il met en avant l'Éternel. Il a tout compris. Il a compris que quand la foi est bien nourrie de la parole de Dieu, le chemin s'ouvre et les bénédictions arrivent. Alors peut-être aujourd'hui vous êtes dans une situation mal engagée, vos chances de succès sont très minces, mais c'est Dieu qui détermine l'issue. Si vous nourrissez votre cœur de la parole de Dieu, alors comme David, attendez-vous à sa main puissante. David a vaincu Goliath par la fronde, une seule pierre qui est tombée au bon endroit, c'est Dieu qui a conduit. Le géant s'est effondré, David lui a coupé la tête, c'était terminé. L'armée des Philistins était vaincue. Tout disait le contraire au début, mais une foi bien nourrie de la parole de Dieu a permis le contraire. Je termine avec un dernier exemple, c'est celui d'Élie. Dans 1 Roi 18, on voit un autre exemple dans le verset 41, 1 Roi 18, 41. Élie dit à Acab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage s'élève de la mer qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dites à Acab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui saignit les reins et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Il y a dans le contexte une famine depuis 3 ans et 6 mois. Et rien n'indique que les choses vont changer. Mais le prophète Élie reçoit par l'esprit qu'il va y avoir la pluie, qui arrive. Alors il est le seul à le croire, il l'a reçu dans son cœur, il entend comme un bruit qui annonce la pluie. Alors si vous êtes proche de Dieu, vous allez commencer à développer une audition, c'est-à-dire que vous allez commencer à entendre les choses de Dieu. Et là, il a une vision de foi. Il demande à son serviteur, regardez le verbe qu'il utilise, il dit « monte et regarde », toujours la vision. Regarde du côté de la mer, qu'est-ce que tu vois ? Le serviteur dit « je ne vois rien ». C'est assez décourageant, il retourne une deuxième fois, « regarde », et il ne voit toujours rien. Et ça va se reproduire jusqu'à 6 fois, et à chaque fois il revient, et il dit « je ne vois rien ». Et quand les réponses sont négatives, et que vous n'avez pas d'amélioration, c'est décourageant. Mais la 7e fois, le serviteur revient en disant « il y a un petit nuage ». Donc il y a une amélioration, on passe de rien à un petit nuage, mais il n'est pas dans la vision de foi parce qu'il dit « mais qu'est-ce que ce petit nuage ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça peut bien faire avec ça ?» Ben, Dieu, en fait, va utiliser des petites choses comme un petit nuage pour faire de grandes choses, l'abondance de la pluie arrive, sauf que quand vous n'êtes pas dans la vision de foi, vous ne le voyez pas, vous ne voyez que le petit nuage. Par contre, Élie, lui, voit dans le petit nuage le signe qui annonce une grande bénédiction. Vous voyez, quand on a nourri sa foi de la parole de Dieu, on voit dans les petits signes l'annonce de grandes promesses. Et si vous croyez, vous commencerez à voir les choses qui ne sont pas encore et les grandes bénédictions qui arrivent. Mais si vous doutez, comme le serviteur qui dit « je ne vois rien ben, », maintenant je vois qu'un petit nuage. Et il s'arrête là, donc c'est une vision très limitée. Eh bien, finalement, il passe à côté. Finalement, vous pouvez être comme le serviteur et dire « moi, je vois rien, je vois qu'un petit nuage, c'est rien, c'est insignifiant, Dieu ne pourra rien faire avec ça. » Et vous en restez là. Et finalement, vous passez à côté de la bénédiction. Mais je reste sur Élie, qui poursuit avec des paroles de foi, verset 44. Après avoir vu dans ce petit nuage le signe d'une grande bénédiction, il dit « Élie dit, monte et dis à Acab, attelle et descend, car plutôt afin que la pluie ne t'arrête pas. » Alors Élie est déjà en train de parler de pluie alors qu'il n'y a pas de pluie. Mais il parle de la pluie comme si elle était là parce qu'il vit dans la foi. Et la foi vous rend présent ce qui est futur. Et il est capable de parler maintenant de la pluie alors que la pluie n'est pas là. Personne autour de lui ne parle de pluie. Tout le monde vit encore dans la sécheresse. On pourrait dire qu'Élie est seul dans son espoir. Il est seul avec sa foi. Mais peut-être que vous serez seul si d'autres ne croient pas autour de vous. Et enfin, il développe une attitude de foi, puisqu'il va courir devant Acab jusqu'à Jizréel, c'est-à-dire une course victorieuse, c'est à la fin du verset 46. Élie se ceint les reins et courut devant Acab, mais Acab, il est sur son char et son cheval. On voit que c'est une course victorieuse devant Acab. C'est la course chrétienne dans Philippiens 3, 13, Paul en parle. Il dit « frères, on pourrait dire frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Si votre foi est bien nourrie de la parole de Dieu, vous allez courir vers le but, vous allez exceller, vous allez triompher parce que la course qu'il a faite est surnaturelle. Courir plus vite qu'un char, ce n'est pas possible. Il a été animé de l'esprit. Et lorsque vous êtes rempli de foi, c'est un zèle qui se communique et vous allez courir, vous allez avoir de la force comme jamais. Et vous allez avancer dans votre vie chrétienne. Et si ce zèle a disparu, si vous n'avez plus la motivation, si vous ne courez plus, vous ne marchez même plus, ben c'est que cette foi n'est pas nourrie par la parole de Dieu, elle s'est affaiblie et vous êtes devenu tiède et peut-être même dans le sommeil spirituel parce que c'est un danger, hein, Jésus en parle. Quand il reprend une église qui est devenue tiède, et il dit, mais je te vomirai de ma bouche. Donc attention à ne pas tomber dans le sommeil. C'est quelque chose qui guette les chrétiens. Si c'est votre cas, mais vous pouvez revenir à Dieu et demander à Dieu de vous remplir de son zèle, de sa foi, afin de reprendre le chemin. Alors on va prier un instant. On a vu comment c'est nécessaire encore aujourd'hui que notre foi soit bien nourrie de la parole de Dieu. Je ne sais pas où en est votre foi ce matin. Est-ce qu'elle est en sous-alimentation? Est-ce qu'elle est mal nourrie, est-ce qu'elle est affaiblie, ou est-ce que vous l'avez bien nourrie de la parole de Dieu et votre foi est bien fondée sur les promesses de la parole. Si vous lisez, si vous méditez la parole de Dieu, moi je vous encourage tous les jours de lire la parole de Dieu C'est ce qui vous donnera de la force face à l'adversaire. C'est ce qui nourrira votre foi. Un jour, le peuple d'Israël s'est lassé de la nourriture de Dieu. Vous voyez, ça, c'est un piège pour les chrétiens. On est chrétien depuis des années, puis on se lasse, et puis finalement, on ne se nourrit plus de la parole. Le peuple s'est lassé de la manne. Il disait, mais notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils en avaient assez de la nourriture de Dieu. Et bien, finalement, ça les a affaiblis. Et ils commençaient à parler contre la manne. Ils commençaient à juger, à critiquer Dieu, à critiquer Moïse. Et ils se sont lassés de cette nourriture. Eh bien, si vous vous lassez de la parole de Dieu, vous serez tellement affaibli que vous allez avoir des paroles mauvaises, des paroles de jugement, des paroles de critique, et vous allez vous égarer, un peu comme le peuple d'Israël. C'est pourquoi, revenons à la parole de Dieu, nourrissons-nous de cette parole et vivons dans la parole. Merci encore, Seigneur, pour ces exemples qui nous montrent le chemin pour nourrir notre foi de ta parole, pour méditer ta parole, pour la proclamer de notre bouche, pour annoncer des vérités, pour avoir des paroles de bénédiction dans nos lèvres. Et Seigneur, de rejeter toute parole d'incrédulité ou toute parole de jugement, de condamnation qui nous égare et qui nous éloigne de toi. Oui, Seigneur, je te prie pour chacun, afin que notre foi soit fortifiée, afin que notre foi soit bien nourrie de la parole de Dieu, afin que celui ou celle qui a délaissé ta parole revienne dans un élan à la méditation de ta parole chaque jour, afin de reprendre le chemin, afin de reprendre des forces spirituelles, afin d'être nourri de la bonne nourriture de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.